Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Copelia Menardi et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Bruno Gagnère-Fontani et réalisation Daniel Finot. Autour de moi, ce soir, Lucille Como, ça fait quatre fois de suite il me semble, Emmanuel Giuliani et Emmanuel Dupuis. À notre affiche, Moscou Paradis d'après Shostakovich, dirigé par Jérôme Kuhn, mise en scène Julien Chavaz, au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. Marin, Marais, pièce de viol par l'ensemble La Rêveuse, un disque chez Mirare. Et Les Noces de Figaro de Mozart, dirigé par René Jacobs et mise en scène par Jean-Louis Martinotti. C'est en DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique. Boris Pino surveille les fils Twitter et Facebook pour donner entendre vos commentaires sur les sujets du soir et puis des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour les expositions de la nouvelle saison du Palais de Tokyo, Discord Filles de la Nuit. Ça ouvre le 16 février, ça durera jusqu'au 13 mai. Nous ouvrons cette dispute en nous rendant à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet pour y découvrir une comédie musicale d'après Dmitri Shostakovich. L'ouvrage original s'intitule Moscou, quartier des cerises. Il a été créé le 24 janvier 1959 au Théâtre de l'Opérette de Moscou. Et ici, à Paris, dans une nouvelle version rebaptisée Moscou Paradis pour deux pianos et du percussionniste par la compagnie lyrique Opéra Louise. L'action se situe à Moscou dans les années 50, époque de la construction des grands ensembles d'habitations. Comme réponse à la démographie galopante, on va suivre un groupe d'individus en famille ou en couple qui veulent tous un appartement flambant neuf d'un confort à l'époque sans égal dans le tout nouveau quartier des Cerises. Voilà pour cet extrait de Moscou, paradis à l'affiche de l'Athénée, des airs que Lucille Como a chanté toute la journée dans le bureau de la dispute. Et c'est vous qui commencez cette discussion, Lucille.
Oui, qui sont vraiment des tubes, ça rentre dans la tête. Enfin,
à la sortie,
Emmanuel
moi j'entendais
pas
plus...
d'accord, mais moi.
Non, mais à la sortie, j'entendais plein de gens chanter. Hein.
Ouais, ça rentre, ça rentre bien dans la tête. Alors moi, je savais pas du tout ce que j'allais voir. J'ai coutume de rien lire du tout sur les spectacles que je vais voir. Et là, en l'occurrence, Moscou Paradis, c'est un titre qu'on connaît pas. J'avais vaguement lu le nom Shostakovich, mais je savais absolument pas à quoi m'attendre. Et alors, j'ai eu un petit peu de mal, je dois dire, pour commencer, à rentrer dans ce spectacle, à comprendre en fait la cohérence, à appréhender la cohérence de la pièce, puisque ce qu'on entend là, ce sont donc des airs. Il y a aussi des duos et puis des morceaux d'ensemble qui sont liés entre eux par des transitions jouées en français par les chanteurs. Et ça a un côté un peu artificiel. Je me suis même dit au départ, peut-être qu'en fait, l'œuvre de Shostakovich, ce sont ces espèces de chansons, airs, je ne sais pas comment les appeler exactement, et ils ont tricoté quelque chose avec, alors que ces chansons-là, elles sont très disparates en plus, pas forcément musicalement, mais au moins du point de vue des paroles, de ce qu'elles racontent, il y a des choses très étonnantes. On a l'impression que c'est collé. En fait, non. C'est en effet une œuvre de Shostakovich, une sorte. Alors j'ai lu opérette, comédie musicale en trois actes.
On dit comédie
Broadway
musicale parce
l'Est.
Qu'on dit que oui, c'est ça, que Moscou voulait faire le pendant de Broadway.
Et d'ailleurs,
à la même
ça
époque,
se
quoi.
Voit d'autant quand on regarde le film, puisqu'il y a eu un film donc adapté de cette comédie musicale plus tard, au début des années 60, que oui, l'ambition c'était évidemment de faire une sorte de Broadway de l'Est. Alors ce qu'on voit sur scène au théâtre de l'Athénée, étant donné que le thème est immobilier, ce sont des sortes de modules qui glissent sur la largeur de la scène, qui représentent d'un côté un salon tout rose avec un téléphone rose, etc. Et de l'autre côté, une petite cuisine. Tout ça est très petit. Autour, ça ressemble plutôt à un chantier. Et puis, il y a des pans qui tombent et qui remontent, qui représentent des grands ensembles, justement. Voilà, des grandes façades avec de multiples fenêtres. Et les personnages évolue là-devant en chantant et en dansant comme dans une comédie musicale.
Et il y aura aussi un jardin.
Oui, à la fin.
N'oublions pas le jardin.
Ce qui d'ailleurs n'existe pas, je crois, en tout cas pas dans le film. Alors je ne sais pas exactement
quelle est la transposition.
Voilà.
Bon, vous n'avez pas donné d'avis, mais vous avez fait une description, ce qui est pas mal aussi. Et c'est toujours très utile, mais je reviendrai recueillir votre sentiment, Lucille Comeau. Emmanuel Giuliani, vos impressions, alors, une fois le décor bien planté par Lucille Comeau.
Absolument. Eh bien, mes impressions ont été très bonnes. J'ai passé une soirée tout à fait agréable. Je n'ai pas vu le temps filer. Je crois que c'est 1h45 sans entracte. Mais on ne se pose pas la question si ça a duré une heure, deux, plus ou moins. Une grande cohérence, comme vous l'avez dit, Lucille, à la fois dans les codes de couleurs, on est vraiment dans un univers rose bonbon, parce que les costumes sont à l'avenant, qui utilise de manière extrêmement décomplexée tous les artifices du théâtre, jusqu'à des perruques très mal foutues, mais qui revendiquent là aussi ce côté tout à fait artificiel. Ces costumes improbables, mais charmants, qui font une gamme de couleurs depuis l'aubergine, un peu de la couleur de nos micros, enfin pas tout à fait jusqu'au rose layette, voilà, et ça décline tous ces tons de rose. Ces éléments que vous avez décrits, qui vont et qui viennent, qui là aussi sont des morceaux d'appartements aussi artificiels qu'il est possible, mais plein de charme. Et puis l'étoile peinte, qui, un peu comme on le verrait, comme on le voit de tout temps à l'opéra, monte et descend pour représenter un décor qui là aussi, bien sûr, est un décor totalement factice, mais il y a un charme et une vérité qui naissent justement de ce côté théâtral, à la fois bricolé et extrêmement précis, extrêmement savant, dans l'agencement du français parlé et du russe chanté. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Dans une chorégraphie entre des mouvements de robots ou des ballets, des films de demi, mais tout le monde aurait de l'arthrose, ce qui fait que les articulations ne bougent pas. Donc ça donne un côté très saccadé, mais qui, au bout d'un moment... On peut se poser la question, puis après, bon, bah, ils sont comme ça. Enfin, j'ai trouvé que tout passait extrêmement bien et que la musique est absolument formidable. Là, ce qu'on vient d'entendre, on pourrait croire que c'est une mélodie de Tchaïkovski. On sait combien Shostakovich admirait Tchaïkovski. Et vraiment, on entend ces mélodies russes tout à fait merveilleuses, d'autres moments beaucoup plus entraînants. Tout à fait bien interprété. On va peut-être parler de la distribution. Enfin, c'est un spectacle qui est à la fois précis, inventif, mais pas du tout prétentieux. Peut-être parce que j'ai vu des choses assez prétentieuses avant, après. J'étais tellement contente que on ne me prenne ni pour une crétine, ni... Voilà, enfin...
du plaisir.
Très, très agréable. Un vrai plaisir.
Alors, Emmanuel Dupuis.
Oui, moi aussi, j'ai passé un bon moment, mais avec tout de même quelques petites réserves. Tout d'abord, bon, ce à quoi on assiste au Théâtre de l'Athénée, c'est une adaptation, donc avec une transcription d'une œuvre écrite à l'origine pour grand orchestre, et qui est transcrite pour deux pianos et percussions. Alors, c'est un choix assez judicieux, parce que le piano étant un instrument à la fois percussif et mélodique, on préserve de cette manière deux caractéristiques essentielles de la musique de Shostakovich, musique qui joue beaucoup sur les rythmes, mais aussi, à certains moments, comme on l'a entendu dans le court extrait tout à l'heure, sur un caractère mélodieux extrêmement généreux. Mais ceci étant, voilà, on perd quand même quelque chose qui fait le génie de la musique de Shostakovich, son génie de la couleur orchestrale, son génie des alliages de timbres. Voilà, donc il y a quand même une petite frustration de ce côté-là. Ensuite, je rejoins un petit peu ce que disait Lucille sur le côté un petit peu disparate de l'ensemble. Je pense que ça tient peut-être au spectacle qui est très bien fait par rapport aux moyens qui sont mis en œuvre, mais qui est quand même un petit peu minimaliste. Parce que c'est, par exemple, bon, la représentation des appartements ultra-modernes, c'est, tout ça est fait... Bon, la seule chose qui représente vraiment la modernité, c'est le réfrigérateur, quoi, c'est tout.
C'est un luxe énorme.
Voilà, c'est un luxe énorme, mais enfin, tout ça manque un petit peu de... Ça mériterait d'être un peu plus d'ostentation, disons, dans la manière où les choses se montraient. De la même manière, le jardin magique, à la fin, où tous les problèmes vont se résoudre, c'est simplement des plantes
en plastique.
Des plantes en plastique posées sur un praticable. Bon, avec un personnage mystérieux qui a une tête d'arrosoir
et de boutons de fleurs.
Et puis des boutons de fleurs sur le corps. Donc voilà, tout ça est un petit peu minimaliste et c'est un petit peu l'image de la transcription musicale. Ça crée un petit peu de on adhère malgré tout parce que l'œuvre est assez géniale et puis c'est fait avec beaucoup d'entrain, beaucoup de rythme. Mais on sort quand même un petit peu frustré en imaginant ce que tout ça aurait pu donner avec d'autres moyens.
Alors peut-être je suis d'accord avec vous, notamment musicalement, et même si je trouve que la transcription m'a l'air tout à fait réussie et pertinente, vous l'avez très bien dit, ça m'a donné envie d'entendre la vraie orchestration de cette œuvre-là, mais peut-être qu'avec plus de moyens, on nous aura peut-être pris pour des imbéciles ou pour... Moi, je partage vraiment l'avis d'Emmanuel Giuliani. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à voir une troupe, cette opéra Louise, qui avec visiblement quand même peu de moyens, mais avec une grande énergie et puis un grand professionnalisme, moi, m'a fait passer vraiment une excellente soirée. Je trouve que le plaisir est vraiment au rendez-vous parce que la troupe... Ça se voit, s'amuse. Enfin, ils ont l'air d'être heureux sur le plateau et c'est quand même très communicatif. Il me semble pour la salle. Moi, comme je le disais tout à l'heure, à la sortie, j'entendais plein de gens chanter ou fredonner les airs, regrettant de ne pas avoir appris le russe à l'école, parce qu'ils avaient tous envie de pouvoir chanter ces airs-là. Et puis, on va en parler. Moi, côté plateau vocal, je crois que les femmes, notamment, étaient portées drôlement bien ces mélodies. Lucille Comeau, alors votre avis maintenant,
oui, pour revenir sur ce que disait Emmanuel, c'est vrai que j'ai pensé ça aussi, mais côté positif, je ne sais pas trop comment dire, mais le côté un peu bricolé, on n'a pas grand-chose, on n'a que deux pianos, je trouve que ça se retourne plutôt en leur faveur, dans la mesure où il y a une esthétique qui n'est pas seulement celle de la comédie musicale, mais aussi celle du cabaret. À partir du moment où je me suis dit, finalement, c'est une sorte de cabaret Shostakovich, j'ai réussi à rentrer dedans, parce que le cabaret, c'est un peu la version pauvre de la comédie musicale. C'est un peu plus grinçant, on chante moins bien, il n'y a que du piano, on danse, bon, on n'a pas beaucoup de place pour danser. Donc, si on assume, enfin, si on a cette idée en tête, je trouve qu'on apprécie le spectacle parce que sa pauvreté, entre guillemets, est plutôt
un avantage. Une cohérence, en tout cas.
Oui, voilà. Et que le côté cabaret, je trouve, avec cette musique-là, ce type de mélodie-là, en fait, ça fonctionne bien. De la même manière, la danse, on voit bien que ce ne sont pas des danseurs, hein, par rapport dans le film, en l'occurrence, je pense qu'ils dansent, hein, les acteurs. Là, ce ne sont pas des danseurs. Donc, ils font des choses en rattrapant des codes de la danse un peu contemporaine et moderne. C'est pas génial, mais bon, ça marche quand même, en effet, emporté dans l'enthousiasme d'une petite forme qui fait feu un peu de tout bois, et donc c'est assez agréable. Moi, ce que j'ai moins aimé, en revanche, où là je suis un peu plus critique, c'est la présence dont on n'a pas encore parlé, de ce personnage qui est muet, qui ouvre et ferme le spectacle, qui rentre par le public, qui est un personnage qui, lui, n'est pas du tout en rose, comme vous le disiez, Emmanuel Giuliani, il est entièrement en gris, il porte un costume d'ouvrier avec un bonnet, une mine vraiment patibulaire, et on sent que ce personnage est là en permanence, parce qu'il est là tout le temps sur scène, pour nous rappeler peut-être la difficulté des temps. C'est comme s'il portait l'espèce d'exigence de quand même donner un peu d'idéologie dans le spectacle. Et là, pour le coup, ça m'a un peu gênée. Je pense que Julien Chavaz a voulu donner une sorte de gravité ou de contenu politique à la chose. C'était pas nécessaire, d'autant qu'en fait, l'ironie, elle est déjà présente dans la forme même de la comédie musicale. Ça m'a un petit peu gênée. Mais sinon, j'ai aussi passé un très bon moment.
Emmanuel Dupuis ?
Alors, la façon dont c'est fait, effectivement, n'est pas très convaincante, cette espèce de sorte de mise en abîme, parce qu'en fait, ce personnage, on le voit apparaître avant que la pièce commence. Le piano au début égrène des accords graves, très forts et très inquiétants, et ce personnage qui a le regard accablé traverse la salle alors que le rideau de fer est encore fermé, puis ensuite le rideau s'ouvre et la pièce peut commencer, et à la fin de la représentation le même rituel,
la boucle se boucle, voilà, le rideau de fer tombe.
C'est vrai que c'est un petit peu appuyé comme procédé, mais en même temps je trouve qu'il est quand même important, et peut-être qu'il y avait une autre manière de le faire, mais il est important pour cette œuvre-là de rappeler le contexte historique, c'est-à-dire celui de la Russie soviétique, parce que sinon on a l'impression d'assister à un simple vaudeville. Alors c'est quand même une œuvre qui a une portée politique importante.
Mais c'est dans les textes des chansons, et si, et dans les couples, et dans la manière dont l'importance d'avoir les clés, l'espèce de d'effervescence justement autour de la modernité qui représente le frigo, le téléphone.
Oui,
si
mais
c'est dans le texte,
mais dans le spectacle, rien ne situait l'ouvrage précisément dans le cadre de la Russie soviétique.
La langue.
La langue, effectivement.
Non,
effectivement,
bah,
la langue. Mais il y avait aussi du français. mais ceci étant, oui, parce que c'est quand même une œuvre qui a une portée politique importante. C'est une œuvre de propagande, mais bizarrement qui porte en elle une critique du système assez explicite. Donc c'est, et je trouve que cet aspect-là n'était peut-être pas assez exploité tout au long du spectacle, hormis par la présence de ce personnage assez inquiétant au début et à la fin, ce qui était un petit peu artificiel, effectivement.
Mais il aurait peut-être suffi, parce que c'est très fort, le rideau de fer qui tombe à la fin.
Oui, voilà, déjà, c'est significatif.
Bon, moi, c'est très clair, c'est à la fois littéral et très un beau geste de théâtre. Moi, je trouve ça très, très... tout d'un coup, on frissonne quand même.
Ça tombe, quoi. On se rend compte, Giuliani, en effet, comme vous l'avez dit, avec les accords, ce piano et ses percussions, qui dans l'ensemble sont plutôt charmantes et entraînantes, peuvent être aussi avoir le tranchant d'une guillotine et sonner le glas. Pour ce qui est de la réduction musicale, et en effet des chanteurs qui quand même, moi je suis comme vous Arnaud, je trouve notamment les femmes, étonnamment deux d'entre elles sont vraiment formidables. On est à l'Athénée, une petite salle, et même quand tout le monde chante ensemble, les deux pianos et les percussions, jamais l'oreille se dit oh là là c'est trop fort. Voilà, il y a en plus un agrément d'écoute et de volume sonore qui, alors évidemment c'est pas le somptueux orchestre de Shostakovich, mais qui était impossible ne serait-ce que pour faire rentrer les musiciens dans la fosse à l'Athénée, et en plus ça, je trouve que ça ajoute au plaisir, parce qu'on a vraiment l'équilibre visuel, en effet, d'une petite forme, d'une sorte d'opéra de poche. On l'a aussi auditivement. Et ce qui permet donc de goûter pleinement les différents grains de voix, de se dire que, décidément, cette mezzo qui chante Macha a une voix magnifique, d'une très belle rondeur, qu'on sera peut-être sensible à certaines notes du ténor, moins à d'autres. Enfin, on a aussi une proximité d'écoute qui, ma foi, en ce qui me concerne, c'était une œuvre que je découvrais parce que je n'avais pas vu la production lyonnaise il y a quelques années. Et donc vraiment, les conditions, le rapport scène-spectateur est très, très intime. Donc c'est bien agréable quand on découvre une œuvre.
Lucille Comeau ?
Oui, alors du point de vue de vocal, en effet, moi aussi très convaincue par les femmes, je trouve que les hommes s'en sortent moins bien, parce que peut-être ils assument moins cette espèce d'intermédiaire entre la voix purement lyrique d'opéra et une voix justement un peu cabaret. À part celui qui joue l'apparatchik, alors je me souviens plus de son nom,
Alexandre Diakov,
qui en fait des tonnes.
Oui, mais
ça va très bien.
C'est ça qu'il faut faire.
Bien bien sûr.
Il a à la fois du timbre et en même temps, il joue sur le parler chanté, sur le côté extrêmement appuyé d'une voix de cabaret, alors que d'autres, parmi les ténors, sont plus dans un truc extrêmement lyrique, plus classique et me plaisent moins, du coup. Parce que je trouve que c'est peut-être pas ce qu'il faut faire pour ce type de musique-là.
Mais pour vous, Emmanuel Dupuis, pour conclure
Non, pour moi, c'était une, effectivement, sur le plan vocal, il n'y a rien à redire. C'est effectivement une troupe extrêmement homogène. Et je rejoins Emmanuel, effectivement, les dames surpassent un petit peu les messieurs, mais voilà, et notamment, moi j'ai beaucoup aimé la soprano qui chantait le rôle de Dotchka, qui s'appelle Sheva Teoval, très jolie petite soprano, mais bon, tout c'était vraiment très bien. Ça n'est pas des grandes voix, parce que ça n'est pas un ouvrage qui demande de grandes voix, de toute façon, c'est pas Lady Macbeth, hein, ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'était une distribution très homogène, et bon, et finalement, malgré les quelques réserves que j'ai exprimées, c'est quand même une entreprise très réussie et c'est un très bon moyen de découvrir une œuvre qui est extrêmement attachante.
Eh bien, on peut la découvrir, cette œuvre Moscou Paradis d'après Shostakovich, dirigée par Jérôme Kuhn, mise en scène Julien Chavaz, avec une production de l'Opéra Louise, jusqu'au 16 février au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet à Paris. Puis notez, en toute fin d'année, à Clermont-Ferrand, à l'Opéra de Clermont-Ferrand, on verra cette même production les 8 et 9 novembre. À suivre dans la dispute Marin, Marais et les Noces de Figaro.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et pour la suite de cette émission consacrée ce soir à la musique, nous allons parler des pièces de viol de Marin Marais par l'ensemble La Rêveuse chez Mirare. Tous les matins du monde, le beau film d'Alain Corneau adapté du livre de Pascal Quignard avait révélé un très grand nombre, le charme très envoûtant des compositions de Marin Marais. Joueur de viol dans la musique de la chambre du roi Louis XIV, Marais a écrit, c'est vrai, sans doute ses plus belles pièces pour son instrument de prédilection. Les disques de Jordi Savall font bien sûr figure de référence pour ce répertoire, mais l'ensemble Mirare propose une sélection dont nous allons parler à présent. Et à titre d'exemple, nous écoutons la Buscayenne. Thank you. Voilà pour un extrait de ce disque de l'ensemble La Rêveuse avec des pièces de viol de Marin Marais. Florence Bolton et Benjamin Perrault mènent cet ensemble. Emmanuel Dupuis, premier regard, premier avis, première écoute sur ce disque.
Première écoute très enthousiaste, puisque vous l'avez dit à Arnaud, ces pièces de viol de Marin Marais nous sont surtout connues grâce à Jordi Savall qui a enregistré les 5 livres de pièces que Marin Marais a composées, et ce sont des enregistrements qui font référence depuis des années. Mais ce nouveau disque de l'ensemble La Rêveuse, d'ailleurs c'est le titre d'une des pièces qui clôt cet enregistrement, ce nouveau disque pourrait constituer une très sérieuse concurrence à l'enregistrement de Jordi Savall. Mais dans une optique d'ailleurs totalement différente, et les deux optiques ne s'invalident absolument pas. Alors bon, il faut préciser que... les pièces qui ont été réunies pour ce disque appartiennent aux deux derniers livres. Bon, on trouve des pièces assez célèbres comme le Badinage, la Fête champêtre ou encore La Rêveuse dont je parlais tout à l'heure. Et Marais atteint ici, à la fin de son parcours créateur, un degré de raffinement dans l'écriture qui est absolument incroyable. Et en même temps, il y a une certaine assaise, ce qui n'est pas du tout... ce qui n'est pas du tout incompatible, parce que en fait il n'y a jamais de virtuosité ostentatoire. Ce sont des pièces virtuoses en réalité, c'est très difficile à jouer, ouais. Mais cette virtuosité, voilà, ne se montre jamais. Et donc voilà, beaucoup de raffinement dans l'écriture, mais aussi beaucoup de raffinement dans l'interprétation, parce que je trouve que ce que font ces musiciens, c'est vraiment du travail d'orfèvre. C'est un jeu extrêmement précis, extrêmement fluide, tout semble toujours couler de source. Et puis il y a une qualité essentielle pour cette musique, c'est l'élégance. Alors chez Savall, il y avait aussi de l'élégance, mais peut-être aussi quelque chose d'un peu plus sanguin, d'un peu plus parfois d'un peu plus méditatif aussi. Là, avec La Rêveuse, on est plutôt dans l'univers de la galanterie, dans l'univers de Watteau ou de l'ancré. Mais voilà, donc deux approches totalement différentes, mais tout aussi passionnantes l'une que l'autre.
Emmanuel Giuliani.
Je ne vois pas quoi ajouter, parce que vraiment,
si,
je
mais
suis...
Si.
Oui, souvent quand on dit ça, après...
Après, on parle de 5 minutes.
Je suis tout à fait de l'avis d'Emmanuel. D'abord, je trouve que le choix de pièces est extrêmement bien fait, parce que on a un portrait vraiment de cette musique avec des pièces très contrastées, aussi bien dans les formats, la plus courte à peine deux minutes, 1 minute 50, et puis on a cette fameuse Rêveuse qui clôt l'enregistrement, ou le Badinage qui là sont des formes, on reste dans la forme courte, mais quand même avec beaucoup plus d'épanchement. Donc on s'installe dans des climats très très différents, avec toujours une alchimie des sortilèges sonores, comme on vient de l'entendre là dans la Biscayenne, absolument extraordinaire. Il y a l'alliage des timbres, pourtant on a au maximum 4 instruments, si je ne me trompe pas, dans les formes les plus riches. Et on arrive à créer des tableaux sonores, des ciels, des textures, mais absolument... d'une variété incroyable, et tout ça avec cette virtuosité où l'art cache l'art, comme le disait Emmanuel, qui est vraiment confondante et qui a une dimension de mélancolie aussi. C'est vrai que par rapport à cette version de référence de Jordi Savall, on a une espèce de... Alors je sais pas si c'est parce qu'on vient de parler de l'univers russe, mais un côté un peu tchékovien, un peu de regret, un peu d'attente, et avec un envoûtement qui est créé par cette espèce de... C'est ça, de temps qui va finir. Alors, est-ce que c'est parce que... C'est très intéressant d'ailleurs, le texte de Florence Bolton qui accompagne, donc qui est dans le livret du disque, nous explique aussi la personnalité réservée, retenue, savante, non démonstrative de Marin Marais. Alors, c'est probablement ça a influencé aussi ma manière de les écouter, mais aussi le jeu de La Rêveuse, qui rend donc des climats de sentiments d'une extrême subtilité, mais tout ça ça avec, on l'a vu là aussi avec la Biscayenne, avec ce côté où la répétition d'un même motif peut créer véritablement une sorte de transe. Donc vraiment, ça prend l'auditeur, ça agrippe l'auditeur, mais de manière très fine, très élégante, comme vous l'avez dit. Et je pense aussi, moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais je pense avec une très belle qualité d'enregistrement qui permet donc d'entendre... Tous ces frottements, tous ces... Voilà. Non, c'est très 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 beau. Un disque vraiment à conseiller.
Bon, est-ce que Lucile Como va tempérer cet enthousiasme ?
Non, je suis très enthousiaste aussi, pas trop enthousiasmée par ce disque. Et en effet, sur la qualité d'enregistrement, je me suis fait la réflexion, même par rapport à Jordi Savall, que c'était très différent comme approche. Et peut-être c'est ça aussi qui rend les deux approches musicales différentes. Là, on est assez proche. Il y a un côté très intime du rapport à cette musique-là, qui est une musique, comme vous le disiez, qui est extrêmement contrastée. C'est-à-dire que parfois, c'est vraiment rien, des toutes petites notes qui s'égrènent. Et puis surtout, ce sont des instruments qu'on sent toujours assez fragile. Donc il y a à la fois une fragilité et parfois une force qui fait que quand on écoute fort au casque, c'est presque trop impressionnant. Mmh. Et moi, je me suis surprise à baisser parce que je trouvais que c'était trop, ça remplit presque trop l'auditeur. Donc c'est assez impressionnant de ce point de vue. J'ai été aussi frappée par la mélancolie des grandes pièces dont on parlait, donc qui sont à la fois le badinage et la rêveuse, qui notamment dans le cas du badinage, le tempo est très 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 allongé. Je pense que c'est un choix parce que en effet Jordi Savall le joue beaucoup plus rapidement. Il y a presque même un effet d'arythmie, il y a des grands silences au milieu, puis ça se clôt, ça s'effiloche tout à fait et le son se s'éteint de lui-même. C'est très très beau. Et j'ai aimé la référence à Watteau, justement, puisque ce sont des dessins d'ailleurs de Watteau qui sont sur le disque, et qui est toujours pris comme un peintre un peu de cour, peintre officiel, qui peint des jolies choses un peu légères et dont on se fiche. Au final, il y a aussi cette profondeur chez Watteau et le côté totalement mélancolique de même des paysages les plus bucoliques qu'il peut peindre. Finalement, chez Marin Marais, il y a un peu la même chose. Il y a une sorte d'apparat, a priori, sont des danses et très rythmées. Et puis, dans le fond, il y a quand même quelque chose de très grave. Et la gravité, je trouve, on l'entend bien dans cet enregistrement. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi. Peut-être un tout petit bémol, je trouve que c'est très long. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais le disque, moi, je le trouve long. Il y a beaucoup de pièces. En effet, comme elles sont très courtes, ça s'enchaîne assez vite. Et je me suis presque dit que peut-être le badinage ou la rêveuse, bon, évidemment, la rêveuse, il le fallait puisque c'est le titre, c'est le nom de l'ensemble, mais c'était presque de trop peut-être.
Bon, je vais réfléchir à cette réserve, Lucile Como, mais vous parlez de trans tout à l'heure, Emmanuel Giuliani. Moi, je dois dire que Marin Marais, c'est une drogue dure pour moi depuis de très longues années. Mais c'est vrai que moi, l'écoute de ces pièces de viol peuvent me rendre un peu fou parce que c'est complètement obsessionnel. Enfin, l'écoute qu'on peut avoir de ces pièces, on peut écouter 10 fois de suite une très courte pièce, enfin, pour aller dans les détails. Et là, effectivement, l'enregistrement. Alors, bon, les techniques d'enregistrement ne sont pas les mêmes qu'il y a une quarantaine d'années quand Jordi Savall a gravé l'essentiel de ses livres. Enfin, il l'a fait sur plusieurs années. Mais là, on a vraiment des détails tout à fait. Que je ne soupçonnais pas, et c'est lié à la, comme vous le disiez, Lucile Como, à ces instruments très particuliers, mais dont on ressent quand même une très grande force, quoi, une très grande capacité de, comment disiez-vous, qu'il envahit l'auditeur ou qu'il prend trop de place chez l'auditeur, mais il y a de cela aussi. Mélancolie, oui, je l'ai entendu, alors que vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, Emmanuel Dupuis, moi, il y a presque quelque chose de mystique quasiment chez Jordi Savall, pas seulement de tonique ou d'endiablé, mais vraiment quelque chose de la question à Dieu, enfin, qui se pose. Et là, c'est vrai que c'est une toute autre écoute. Alors, question un peu technique, moi qui n'ai hélas pas d'éducation musicale, comment on définit un tempo, parce que badinage est évident, on en reparlera tout à l'heure pour les Noces de Figaro et René Jacobs, mais comment le badinage peut-il être si lent ici alors que Jordi Savall le joue, lui, si vite, Emmanuel Dupuis ?
À l'époque, les indications de tempo, ça n'existait pratiquement pas sur les partitions. Donc
on en fait ce qu'on veut.
Donc on fait à peu près ce qu'on veut. De toute façon, la musique, toute l'interprétation de la musique baroque laisse une très grande liberté à l'interprète parce que souvent les choses ne sont pas écrites. Et là, par exemple, ici, on a 4 musiciens alors que chez Jordi Savall, il y en a souvent beaucoup moins.
Ouais.
Là, on a plus l'impression d'être dans une forme de musique de chambre avant l'heure. Parce que, bon, certes, Florence Bolton qui tient la viole principale, c'est elle qui chante d'une certaine manière, c'est elle la diva qui chante la voix principale, mais en même temps toujours en dialogue et en fusion avec ses partenaires. Et bon, d'ailleurs, on pourrait tous les citer, Benjamin Perrault au théorbe et à la guitare baroque, Carsten Loff au clavecin, et Robin Faro qui lui joue la deuxième viole, et cette deuxième viole fait une sorte de d'écho à la première sans jamais l'écraser. Il y a un très très grand équilibre entre les quatre musiciens. C'est une circulation du dialogue musical très très, très fine. C'est pour ça que je parlais d'esprit musique de chambre tout à l'heure.
Mais Giuliani.
Oui. Et aussi un côté très pastoral. Vous avez évoqué Watteau. C'est vrai qu'il y a des personnages, notamment il y a certaines pièces qui sont des portraits. Mais moi j'étais très très séduite aussi par la fête champêtre, qui est la plage juste avant celle qu'on vient d'entendre, qui a au milieu une petite musette, et où on a l'impression vraiment qu'une cornemuse paysanne vient s'installer. Et puis après on retourne dans des sonorités plus urbaines, si tant est qu'on puisse employer ce terme. Donc il y a vraiment, on a là dans cette fête champêtre une petite symphonie pastorale en 4 minutes absolument formidable. Donc je pense qu'aussi la grande invention qu'Emmanuel soulignait dans le tempo, elle est aussi dans les rapports sonores. Et dans Florence Bolton dit dans son texte à certains moments que Marin Marais précise bien que tel instrument doit laisser le sujet chanter, ne pas le couper. Donc il doit y avoir aussi une connaissance extrêmement approfondie des textes qui accompagnaient évidemment l'édition de ces pièces. Beaucoup de références à Couperin aussi. Il y a deux pièces de Couperin. S'il fallait abréger le disque, moi c'est les deux Couperins que je n'aurais pas mis. D'autant plus que les barricades mystérieuses, vraiment, c'est vrai que la version clavecin ou piano, moi j'ai tellement ça dans l'oreille que je trouve que c'était un peu pauvret sous cette version-là. Mais après tout, pourquoi pas. Et donc vraiment, on a ce mélange de liberté et de respect du texte qui là aussi est extrêmement séduisant. Non, vraiment, il faut. Je crois que vous avez raison, c'était une drogue dure.
Je crois aussi.
Et voilà, des dealers supplémentaires.
Nous en sommes. Lucille Como.
Non, sur ces pièces qui sont donc des transcriptions du clavecin pour la guitare, en même temps, je me suis fait la réflexion que c'était un peu bizarre de les avoir mises là à la première écoute.
Couperin.
Et en même temps, Et en même temps, elles offrent une sorte de respiration parce que pour le coup, il y a quand même une légèreté dans la guitare baroque qui est bienvenue parce que c'est vrai que
c'est dense.
Oui, c'est ça. Oui, il y a quand même une forme de dramaturgie dans la façon dont le programme est construit. Ces pièces de Couperin sont un petit peu des intermèdes dans la dramaturgie.
Bon, bien, unanimité de louanges pour ce disque Marin Marais, pièce de viol par l'ensemble La Rêveuse, qui est paru chez Mirard. Et puis quelques dates de concert de l'ensemble La Rêveuse, dans des programmes qui incluent du Marin Marais. Alors le prochain, c'est tout bientôt, le 18 février, au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Programme Lambert, Lully, Marais. Et puis on passe au mois de juin, le 15 juin à Maglone, le 17 juin à Solis, et ce sera le Festival des musiques anciennes de Maglone. Là, ce sera un programme Marais-Couperin. 29 juin à Gien, c'est pas facile à dire, dans le cadre du Festival Jeudeau. Là, on aura du Couperin, Marais, Ravel et Debussy. Et enfin, le 30 juin à Loris, on pourra entendre l'ensemble La Rêveuse dans le cadre du Festival d'Orgue et du musiques anciennes de Loris. Et au programme, ce sera à nouveau Marin Marais et François Couperin.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute musicale, c'est un opéra en DVD, Les Noces de Figaro de Mozart, dirigé par René Jacobs, mise en scène Jean-Louis Martinotti. C'est en DVD et Blu-ray que Bel Air Classique réédite cette production, filmée en juin 2004 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Rappelons que cet opéra est le premier de la trilogie Mozart da Ponte, les deux autres étant Don Giovanni et Così fan tutte. Mozart avait souhaité adapter la pièce de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, et donc il l'a donnée à da Ponte. La Rosine du barbier est devenue la comtesse Almaviva. Son mari est toujours intéressé par la genre féminine, et notamment par Suzanne, la camériste de sa femme, Susanna, qui doit, elle, épouser Figaro, qui est entré au service du comte. On va écouter, avant d'en parler, le final de l'acte 2.
Pian piani senza schiamati, dico ognun quel che gli par, dico ognun quel che gli par.
Impegno non signore, qui con me contrato, e pretendo che il contrato debba me effettuare.
Come? Come? Oh, silenzio, 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 io son qui per giudicar.
Io mare scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese io qui vengo a palesare.
Oh, silenzio, 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 io son qui per giudicar.
Io con uomo al mondo accognito vengo qui per testimonio del promesso matrimonio con prestanza di danaro.
Oh, silenzio, lo vedremo, il contratto leggeremo, tutti in ordine deve andar.
Santa cosa sostorremo,
che bel colpo, che bel
paese, che bel colpo, che
è cresciuta tutti
il cielo.
Les Noces de Figaro à retrouver en DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique. René Jacobs à la direction, Jean-Louis Martinotti à la mise en scène. C'est Emmanuel Giuliani qui commence à nous parler de ce DVD.
Alors, c'est un DVD qui donc reprend, comme vous l'avez dit, une production assez ancienne qui avait eu plusieurs versions avec différentes distributions. Moi, je l'avais vu avec une distribution un peu autre. Et c'est vrai que le DVD est plutôt, par rapport à mes souvenirs, une bonne surprise, notamment en ce qui concerne toute la partie visuelle, non pas le jeu d'acteur qui est efficace, actif et qu'il était déjà sur la scène, mais j'avais souvenir de décors très très vilains, dans des gammes de entre mayonnaise, moutarde, mousse au chocolat, version cantine, enfin très très marron, avec ces agrandissements de tableaux qui avaient un peu l'air d'être des photocopies faites au coin de la rue, enfin vraiment laid. Et est-ce une question de lumière, de manière de filmer, de souvenirs qui étaient injustes? Mais en tous les cas, je trouve que globalement, l'univers esthétique, sans être toujours d'un raffinement et d'une légèreté absolue, passe quand même plutôt bien et que le DVD a tendance à magnifier les choses, en tous les cas à les assouplir. Musicalement, c'est très contrasté. Là, on vient d'entendre, et quand on ne fait que entendre, c'est encore pire, si je puis dire, que quand on voit en même temps. La direction de René Jacobs est quand même très très problématique.
Voilà.
C'est-à-dire, elle est à la fois, ça c'est sa caractéristique, ça tire beaucoup à Hue et à Dia, avec des moments extrêmement rapides, puis tout à coup il tire sur les rênes, alors les chevaux sont obligés de réduire l'allure très très brutalement et avec douleur visiblement. Un passage, on sait plus très bien ce qui se passe, et puis ça repart dans un nouvel élan, ce qui fait que c'est un peu épuisant pour l'auditeur. Et puis dans les grands passages, évidemment ce génialissime, là on en a entendu l'extrême fin finale de l'acte 2, où il y a une espèce de montée en puissance irrésistible, et il y en a toujours de plus en plus, mais dans un élan et dans une espèce de fluidité. De là, c'est très très lourd, ça plante des clous, c'est un peu compliqué, et ce qui fait que les atouts de la distribution arrivent à s'en sortir, et les chanteurs moins à l'aise ou eux-mêmes plus métronomiques et qui sont moins dans le flux dramatique, se prennent un peu les pieds dans le tapis. Et
mais donc là,
c'est pas toujours facile, ils sont pas aidés par le chef. Certains sont même mis en danger
à
certains moments, vraiment très très nettement. Et dans ces noces qui doivent être un grand élan, qui vous prend de la première note jusqu'à la dernière, et c'est tout pour le drame, tout pour le théâtre et tout pour l'action. Là, l'action est quand même pas mal entravée à cause de ces choix musicaux vraiment très difficiles par moment.
Lucile Como, votre sentiment ou bout de votre sentiment?
Notamment la comtesse qui entre en scène assez tard en fait dans l'action. Son premier air est extrêmement lent, et je crois que le deuxième grand air qu'elle a au troisième acte, pareil, est pris extrêmement lent par René Jacobs, et on la plaint parce que vraiment
c'est dur d'y arriver.
Ouais, c'est bizarre de lui faire ça. Alors moi, en l'occurrence, j'ai vraiment dans l'oreille maintenant très très précisément. Emmanuel Dupuis va détester la version Curenzis que j'aime vraiment beaucoup, Les Noces de Figaro. J'aime pas tout Curenzis, mais vraiment, je trouve que sur Les Noces de Figaro, il a fait un travail vraiment magnifique, notamment parce qu'en effet, comme le disait Emmanuel Giuliani, il faut que ce soit léger pour que ce soit aussi rapide et que l'action l'emporte sur le reste. Et les timbres de Curenzis, ils sont extrêmement léger, il n'y a pas de vibrato. Là, pour moi, c'est trop lourd et ce n'est pas seulement, je pense, une question de direction. C'est aussi que je trouve que les voix, en général, et notamment les voix féminines, pour moi, elles ont trop de timbres, il y a trop de vibrato chez Suzanne, il y a trop de vibrato chez Rubin aussi. Donc, ça me gêne. Bon, ça m'a gênée au début, puis au bout d'un moment, je me suis faite à cette option musicale-là, donc ça allait. Après, sur les décors, moi, je ne l'ai pas vu en vrai, mais je trouve ça quand même très moche, même en vidéo. Ces pans en effet de peinture qui sont à la fois des trompe-l'œil et des reproductions de tableaux, un peu tout mélangé. En fait, l'idée, c'est de faire une sorte de grenier.
Très bric-à-brac, oui.
Voilà, très bric-à-brac. Mais ce qui est très moche, mais en même temps, je reconnais très efficace, parce que c'est une pièce de bric-à-brac, Les Noces de Figaro. Il y a tout le temps besoin d'accessoires pour passer d'une scène à l'autre. Il y a des billets et des poulets à n'en plus finir qui passent de main en main, jamais à la bonne personne. Il y a le fameux ruban. Enfin, c'est une pièce à accessoires. Donc, en effet, il le joue littéralement comme une pièce à accessoires et ça fonctionne. Les acteurs courent dans tous les sens avec des accessoires partout. Voilà, par exemple, quand Suzanne dit « je vais aller fermer les portes », elle ferme toutes les portes en courant comme une dingue tout autour de la scène. Et en fait, la littéralité, pour le coup, elle ne me dérange pas, parce que je trouve que ça fonctionne bien avec ce livret-là, et que c'est pas fou, mais ça fonctionne parce que les acteurs jouent le jeu, et que leur corps, pour le coup, est mis en jeu d'une manière, ça faut quand même le dire, ils bougent dans tous les sens. Hein.
Oui,
Chérubin, Suzanne, ça bouge dans tous les sens, et ils arrivent quand même à maintenir un niveau de musical correct. Donc bon, c'est pas très agréable à regarder, mais c'est quand même, voilà.
Non, mais vous dites c'est pas fou, mais c'est vrai que mise en scène plus direction, c'est quand même le challenge est doublé aussi pour les interprètes. Je pense à ce pauvre Bartolo qui est le plus essoufflé de tous, qui a quand même du mal. Et lui, il a droit à des cadences à l'inverse de la comtesse, ultra rapide. Enfin, c'est parfois très très difficile pour lui. Emmanuel Dupuis.
Alors, sur l'aspect musical, je vous rejoins tous à peu près. Effectivement, c'est un Mozart à la pointe sèche, d'une certaine manière, mais vraiment très sèche. Et moi, je préfère les Mozart avec un peu plus de rondeur, un peu plus de sensibilité. Enfin, pour moi, l'antidote à René Jacob, c'est certainement pas que Rancis. vous l'avez deviné. Parce que je ne me plaiderai jamais qu'une chanteuse a de la chair dans le timbre et un petit peu de vibrato pour exprimer sa sensualité, ça me dérangera jamais. Mais concernant la direction de René Jacobs, oui, effectivement, le problème, c'est que ça manque de souplesse, ça manque de respiration, c'est souvent trop brutal. Et du coup, il y a toute une partie de tout l'acte 4, toute la poésie de cette nuit d'été, tout ça, ça échappe là, dans la direction de Jacobs. Et concernant le spectacle, bon, vous l'avez très bien dit, la principale originalité, c'est ce décor ces décors qui sont constitués d'assemblages de tableaux anciens. Alors, bon, ça change, hein, en même temps, puisque au premier acte, ce sont plutôt des trompe-l'œil qui représentent des bibliothèques, des cabinets de curiosité. Ensuite, on a, dans la chambre de la comtesse, on voit les pieds d'un immense Christ. Alors, peut-être pour nous dire que la comtesse est un personnage assez pieux. Et puis, à la fin, au dernier acte, ce sont des tableaux floraux, dont certains sont représentés sur des tulles, donc ce qui permet des effets de transparence pas inintéressants. Donc tout ça, moi je trouvais ça quand même esthétiquement assez réussi, contrairement à vous, Lucie. Tout comme les costumes, des très jolis costumes 18e, conçus par Sylvie de Segonzac, où il ne manque pas une broderie et pas un bouton.
Vous l'aviez vu en vrai ?
Je l'avais vu en vrai. Et effectivement,
vous en aviez quel souvenir ?
Non, mais comme Emmanuel, j'ai été heureusement surpris par le DVD par rapport au souvenir que j'en avais. J'ai le souvenir d'un spectacle assez sombre, assez sinistre. Et là, je ne sais pas, peut-être que parce que les lumières ont changé pour la captation, donc il y a quelque chose d'un peu plus lumineux. Mais bon, voilà, à part ce décor, tout au long de l'ouvrage, ben, on n'a pas d'autres surprises. C'est-à-dire que bon, c'est rondement mené, le jeu d'acteur est assez fluide, assez rythmé, mais il n'y a pas de surprise. Alors après, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des surprises dans Les Noces de Figaro ? Ça peut se discuter, parce que c'est une matière théâtrale qui est déjà tellement riche, tellement dense, que c'est un opéra tellement parfait, que est-ce que c'est vraiment la peine d'en rajouter ? Bon, Martinotti, clairement, lui, décide de ne pas en rajouter. Il y a une certaine humilité dans sa lecture, une certaine humilité par rapport à l'œuvre. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà.
Bon.
L'humilité.
Un peu d'humilité. On parlait, pendant que l'extrait était diffusé, des noces qu'on voit assez peu souvent, et je découvre, puisque je vous en parlais, Lucille, à l'instant, que en fait, il y a un DVD de la mise en scène de Christophe Martaler qui avait été présenté il y a de nombreuses années, il y a une dizaine d'années, je pense, à l'Opéra de Paris. C'est quand même, il y avait Peter Mattei, qu'on adore, qui était là déjà. Donc, il faut qu'on se procure ce DVD pour que vous voyez un autre type. Très différent.
C'est totalement différent.
Les productions, on est d'accord. Non, parce que je me demandais, en vous écoutant parler, quelle était la bonne version en DVD si on voulait voir Les Noces.
La production de Schreller a été filmée. Il y a deux distributions différentes en DVD. Mais elle a été filmée bien après la mort de Schreller. Elle avait été filmée de son vivant aussi, mais malheureusement...
C'était l'époque où les droits étaient compliqués pour l'Opéra de Paris. Et donc il y a eu une reprise, une recréation de cette mise en scène.
Voilà, la reprise bien après la mort de Schreller a été deux fois a été filmée. Ça, c'est disponible en DVD. Si on veut une mise en scène classique... très réussi et très homogène sur le plan musical. Il y a aussi une belle production de David McVicar, filmée à Londres.
Bon, ben voilà.
Le film avec de celle de Ponel.
Oui,
qui peut-être, moi je l'ai pas vu depuis longtemps.
Ça a un petit peu vieilli.
Ça a sans doute vieilli.
Mais la distribution est
superlative.
Il est à se rouler par terre.
Bon, votre choix parmi tous ces bons conseils. En tout cas, là, on parlait pour l'instant des Noces de Figaro de Mozart, dirigé par René Jacobs, mise en scène Jean-Louis Martinotti, qu'on retrouve en DVD et en Blu-ray chez Bel Air Classique. Et je ne l'ai pas dit, c'est important. Le DVD est réalisé par Pierre Barré.
On
Concluons avec le jeu de la dispute et avec Camille André qui nous a rejoint pour nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous en donner sa réponse, Camille.
Welcome to Camp America est le projet qui marque le retour à la photographie de Debbie Cornwall, présente à l'exposition En suspens au bal où furent prises ses photographies.
Et la réponse était ?
À la base militaire de Guantanamo.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour les expositions de la nouvelle saison du Palais de Tokyo au Discord Filles de la Nuit. Ça ouvre le 16 février, ça durera jusqu'au 13 mai, c'est à Paris. Quelle est la question ?
Lors de quel événement historique fut édifié le Palais de Tokyo ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations de cette émission à retrouver sur la page internet franceculture.fr, à la page de la dispute sur le site internet, bref, vous avez compris. Vous pouvez y écouter, réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain qui aura trait aux arts plastiques à partir de 19h. Nous serons en compagnie d'Anaël Pigeat, Corinne Rondeau et Florian Guettet. Nous parlerons de la rétrospective chez la X, ligne de vie au centre Pompidou, de l'exposition Corot, le peintre et ses modèles, c'est au musée Marmottan, et Cécile Beau, la région vaporeuse, une exposition présentée à la Maison des Arts de Malakoff.